Réunion de questions et réponses des ministres francophones. Mai 2022. Le 21 mai 2022. Pasteur Brian Kozurek. Frère Brian, ces questions sur la résurrection sont posées parmi les frères parce que nous nous attendons à entrer dans cette saison. Alors, ce sera une session sur la résurrection. Nous savons que Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Mais nous savons aussi que nous sommes censés attendre l'arrivée des événements afin de les voir s'accomplir, à l'instar de ce qui s'est passé avec Siméon lors du ministère Alpha. D'où la raison des questions suivantes. Question numéro 1, pouvez-vous nous aider à mieux comprendre la pré-résurrection, la résurrection et la post-résurrection, par rapport au cri, à la voix et à la trompette? Réponse numéro 1. Maintenant, je dois vous dire d'emblée que ces 8 questions que vous avez soumises aujourd'hui sont peut-être les meilleures que nous ayons reçues à ce jour. Parce que vous montrez, par vos questions, que votre pensée commence à se concentrer sur le jour dans lequel vous vivez, et la saison où le cri cédera la place à la voix de la résurrection. Autrement dit, le cri, la voix et la trompette sont 3 saisons comprises dans la grande parousia de Dieu où il accomplit toutes les 3 choses lors sa parousia. Ce sont les mêmes questions qui sont en suspens dans ma pensée chaque jour et pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Mais je sais que les réponses doivent se trouver quelque part dans la parole de Dieu et dans le message. Parce que lorsque Dieu Esther descendu avec le cri, qui Esther le message, il a dit que ce 7e ange rassemblerait tous les mystères. Sinon, ces questions seraient toujours des mystères qui n'y sont pas révélés. Et nous savons qu'Apocalypse 10.1-6. Esther 1 Thessaloniciens 4.17 où le Seigneur descend avec un cri, une voix et une trompette. Apocalypse 10.1-6. Et je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé, vêtu, d'une nuée, et au-dessus de sa tête, un arc-en-ciel, et son visage brillait comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Très bien. Voilà donc les symboles dont frère Branham nous a parlé dans le Universo, qui cachait le mystère. Mais ces symboles ont été révélés lorsque les sceaux ont été brisés, et ce, par Dieu, en les faisant s'accomplir pour nous en donner l'interprétation. Donc, les symboles sont la nuée, comme une pièce de vêtement que nous voyons former la perruque blanche montrant qu'il est Esther le juge suprême. Nous en avons la photo. Ainsi Dieu a interprété cela en faisant cela s'accomplir. Les autres symboles sont la colonne de feu et l'arc-en-ciel. Par conséquent, la colonne de feu Esther la présence de la Shekhina, laquelle représente la présence de Dieu, et le symbole suivant que nous voyons, c'est Esther l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, montrant que la tête, le chef ou l'autorité Esther ici, et nous savons que Dieu Esther apparut à Noé dans l'arc-en-ciel comme l'ange de l'Alliance. Puis nous avons vu les 3 arcs-en-ciel horizontaux venir à notre prophète et former un seul arc-en-ciel, et remarquez qu'ils n'ont jamais touché la terre, ils sont restés suspendus au-dessus de la terre. Il en fut de même dans mon ministère, alors que nous montrions aux frères l'ordre dans la famille. Dieu Esther le chef de Christ, et Christ, en tant que frère aîné d'une vaste famille de frères, Esther le chef de tout homme. 1 Corinthiens 11.3 Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme, c'est Esther Christ, et la tête de la femme Esther l'homme, et la tête de Christ, c'est Esther Dieu. Maintenant, pourquoi Paul dirait-il cela si Christ était Dieu? Mais remarquez, ces 3 arcs-en-ciel horizontaux sont venus et ont formé un seul arc-en-ciel, et remarquez, ils étaient à 10 mètres au-dessus du sol et n'ont jamais touché la terre. Et nous en avons des photos ainsi que des vidéos. Dans Apocalypse 10.1, l'arc-en-ciel, au-dessus de sa tête couverte de la perruque blanche, attire l'attention sur la tête qui est Esther descendue. Et Dieu Esther la tête de l'ensemble. Et l'arc-en-ciel montre qu'il était l'ange de l'Alliance. Lequel Esther Dieu lui-même? 1 Corinthiens 15.27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu plaçant toutes choses sous les pieds de son Fils Jésus, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il Esther évite que celui qui lui a soumis toutes choses Esther excepté. Ainsi, bien que Dieu ait mis toutes choses sous les pieds de son Fils, Paul dit qu'une personne Esther exceptée, qui est Esther Dieu lui-même, qui place toutes choses sous les pieds de son Fils. Cela répond également à la question où Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Les unitaires disent que si tout pouvoir lui a été donné, alors cela veut dire que le Père n'a plus de pouvoir. Alors, Jésus, le Fils de Dieu, doit être Dieu. Mais il manque de diviser correctement la parole en prenant tout ce qui Esther écrit, parole sur parole, et ligne sur ligne. L'apôtre Paul nous dit ici ce qui arrive. 28 Et quand toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. De sa prédication, monsieur, Esther c'est le signe de la fin. 30 décembre 62 SP, 123 Frère Branham dit, 197 maintenant. Écoutez. Cet ange Esther descendu du ciel. Vous voyez, les sept autres anges des sept églises étaient des messagers terrestres. Mais cet ange. Tout le message Esther terminé. Le septième ange clôture le tout. Cet ange vient. Non pas sur la terre il n'Esther pas un homme de la terre. Comme les messagers aux âges de l'église. Ça. C'est Esther terminé. Mais cet ange apporte l'annonce suivante et ange veut dire messager. Et il descend du ciel. Enveloppé de cette colonne de lumière. De cette nuée. Avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et un arc-en-ciel Esther une alliance. C'était Christ. Avec un pied sur la terre et un pied sur la mer. Et il jura qu'il n'y aura plus de temps. La brèche 17 mars 1963 SP. 122 maintenant, nous voyons que ce livre scellé des sept sceaux maintenant, Esther le mystère de la rédemption. C'est Esther un livre de rédemption venant de Dieu. Maintenant, tous les mystères à ce moment-là, devraient être terminés à la proclamation de ce messager. Maintenant, voici l'ange sur la terre, et un autre ange. Un puissant messager descend. Vous voyez, cet ange était un ange, un messager terrestre. Mais en voici un qui descend du ciel, un arc-en-ciel, une alliance. Voyez, ça n'est mis peut-être que Christ, car on nous cite exactement comme dans Apocalypse au chapitre 1, debout au milieu des sept chandeliers d'or avec un arc-en-ciel semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Le premier sceau 18 mars 1963 p. 90 permettez-moi de le relire. Cela me semble si bon, j'aime le lire je vis, un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel. Sur sa tête, et son, visage était, le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu, or, nous avons vu la même chose, qui était Christ. Et nous savons que Christ Esther toujours le messager de l'Église. D'accord. Il est appelé une colonne de feu, l'ange de l'Alliance et ainsi de suite. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Maintenant, les sceaux avaient été brisés ici. Nous sommes en train de les briser maintenant, mais ici, la chose est ouverte. Maintenant, rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'ai fait ressortir la façon donc, dans l'Alpha, Jésus avait un ministère avant la résurrection et un ministère après la résurrection. Et j'ai aussi dit que le septième ange messager aura un ministère avant la résurrection et après la résurrection, parce que l'élite de ce jour, c'est Esther le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ôtons nos yeux du vase, mais plaçons-les plutôt sur le Dieu, qui Esther descendue avec un cri, une voix et puis une trompette. C'est Esther l'unique Seigneur qui fait tous les trois. Et nous savons que le cri, c'est Esther la saison avant la résurrection. Ensuite vient la saison de la résurrection, c'est Esther la voix. Et enfin vient la troisième saison, la pré-résurrection, où nous nous rassemblons au son de la trompette, pour aller au souper des noces dans cette autre dimension. J'ai mentionné que la trompette qui nous rassemble, c'est Esther également la même trompette, qui appelle Israël à la fête des trompettes. Par conséquent, alors que nous sommes rassemblés pour monter, Israël est rassemblé pour la moitié de sa dernière semaine des 70 semaines de Daniel, les 3 ans et demi qui auront lieu durant la période de tribulation. Maintenant, cela nous amène à cette citation particulière, qui est Esther un véritable casse-tête, parce qu'elle semble dire une chose, mais, à moins de comprendre le ministère avant la résurrection et le ministère après la résurrection, nous n'y comprendrons pas cette prochaine citation dans la brèche. Dans la brèche 17 mars 1963 SP, 16. Prêché juste avant l'ouverture des sceaux. Frère Branham y fait une déclaration qui peut déconcerter l'entièreté de votre foi dans les autres choses qu'il dit concernant Apocalypse 10.1-7. Si vous n'y comprenez pas que la parousia, c'est Esther le cri, la voix et la trompette, ou la trompette Esther composée de deux éléments, elle s'adresse d'abord aux nations pour mettre fin à la dispensation des nations et pour les rassembler au souper des noces. Dans le même temps, Dieu se tourne vers les Juifs pour entamer leur dernière semaine. Son livre scellé de sept sceaux, Esther révélé à l'époque des sept tonnerres d'Apocalypse 10. Si vous le notez, allons à Apocalypse 10 juste un instant, afin que vous obteniez une compréhension avant d'entrer dans le vif du sujet. Maintenant, c'est Esther au temps de la fin, car écoutez, j'ai vu un autre ange puissant descendre du ciel, vêtu d'une nuée et d'un arc-en-ciel sur la tête. Si vous remarquez, c'est Esther Christ, vous voyez? Parce que dans l'Ancien Testament, il fut appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient directement aux Juifs maintenant, car pour l'Église, c'est Esther terminée. Voyez? D'accord. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous vous souvenez de cet ange dans Apocalypse 1? C'est Esther la même chose. L'ange Esther un messager, et l'Esther un messager pour Israël. Voyez? L'Église a été enlevée. Voyez, maintenant, ou prête à être enlevée. Il vient pour son Église. Il vient directement aux Juifs, car pour l'Église, c'est Esther terminée. Alors la trompette appelle l'épouse au souper des noces. Dieu Néhémie ne traite plus avec l'Église, et maintenant Dieu traite avec les Juifs pour leurs derniers 3 ans et demi. Pour William Branham, le septième ange. Son ministère Esther terminé. Ainsi le témoin Esther transmis à Moïse et à Élie. C'est Esther ce que je comprends au mieux de ma connaissance. Mais nous saurons avec certitude quand le temps de la trompette se produira. Car Dieu interprétera alors sa parole en la faisant s'accomplir. Je crois que c'est Esther ce pourquoi William Branham croyait tant qu'il irait en Israël. Mais Dieu lui a dit que ce n'était pas encore le temps. Et puis il a également dit qu'Israël Néhémie recevrait jamais un prophète des nations. Alors oui, il ira en Israël, mais ce sera leurs propres prophètes qui traiteront avec eux. Le prochain symbole que nous voyons, c'est Esther la colonne de feu aussi brillante que le soleil. Et nous avons tous vu l'accomplissement de l'apparition de la colonne de feu de Dieu et elle a même été photographiée. 2. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. 3. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion, et on voit le lion qui rugit dans Amos 3.6-7 le lion rugit, qui Néhémie prophétiserait. Voilà le cri, et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. 4 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis une voix du ciel, qui disait, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et Néhémie les écrit pas. Alors, comment ont-ils été scellés? Ils ont été scellés à l'aide de symboles. Et donc, cela a été caché sous forme de symboles. Jusqu'à ce qu'en ce dernier jour, Dieu révèle ce qu'étaient ces symboles, et cela en a ouvert toute la compréhension. Comprenez bien les symboles, et vous pourrez voir ce que c'est Esther. Apocalypse. Livre des symboles 17 juin 1956 p. 10. Le livre de l'Apocalypse était le scellement du dernier témoignage du Seigneur Jésus. Et il a été donné. Nous allons commencer au premier chapitre. Je pensais que nous aurions peut-être commencé là avec certains des autres symboles. Maintenant, tout le livre Esther écrit sous forme de symboles. Il n'y a presque rien de direct avec la parole. Où vous placez cela tout de suite dites. C'est Esther sous forme de symboles. Et Dieu a une façon de le faire et une raison de le faire. Dieu Néhémie fait rien sans qu'il ait une raison derrière cela. Et Esther ce que quelqu'un, si Esther une classe maintenant, Esther ce que quelqu'un aurait une idée de ce pourquoi il a fait cela, la voilà, afin qu'il puisse le cacher aux yeux des sages et des intelligents et le révéler aux enfants qui voudraient apprendre. N'est-il pas gentil de nous le faire de cette façon? Maintenant, de nos jours, nous devrions tous connaître le cryptage, car il existe des milliers de programmes dans nos téléphones portables, nos tablettes et nos ordinateurs qui utilisent le cryptage pour cacher nos textes. Dans le code ASCII usuel, il y a des caractères en plus de notre alphabet que nous utilisons régulièrement, et donc chaque enfant qui apprend à lire, apprend également ces symboles. Et une fois que vous avez appris l'alphabet et de nombreux symboles annexes, la lecture devient une tâche très simple. Signifie point d'exclamation. Sont des guillemets qui désignent le début et la fin d'une citation. À la fin d'une phrase signifie que la phrase était une question, numéro signifie numéro, dollar signifie dollar, pourcent signifie pourcentage et Esther n'esperluette, signe typographique, et s'utilise à la place du mot et. Ce Néhémie sont là que quelques exemples. Maintenant, la langue écrite doit avoir ses symboles. Pour mettre l'accent correct, pour donner au mot de l'expression. Sinon, des mots sans signe de ponctuation pourraient être pris dans le sens contraire de ce qu'ils étaient censés exprimer, causant ainsi beaucoup de confusion. Et c'est très important de le savoir dans le travail de traduction. Parce que sans eux, ces signes de ponctuation, vous pourriez lire quelque chose qui signifie le contraire de ce qui Esther vraiment dit. Et quand vous comprenez les symboles bibliques, alors la Bible devient également pour vous un livre ouvert. Comme nous l'avons vu dans les sceaux. Un cheval Esther, une bête, qui représente un pouvoir, une puissance. Et le blanc représente la vertu ou la religion. Mais quand vous couplez le cheval blanc, le pouvoir religieux, à un cavalier qui avait un arc mais pas de flèche, cela vous montre qu'il s'agissait d'un menteur, ce qui signifie que c'était un faux pouvoir religieux. Autrement dit, celui qui montait cette puissance, le cheval blanc, n'était pas honnête, il était donc faux. Par conséquent, vous voyez une fausse religion représentée dans le premier sceau. Puis le rouge représente la mort et le fait de mourir, le sang, et vous voyez comment le cheval, la puissance Esther partit en conquérant pour conquérir. Maintenant, en comprenant les symboles, vous comprenez également les motifs, l'esprit et ce qui Esther exprimait derrière les symboles. Dans son sermon, les œuvres sont l'expression de la foi 26 novembre 1965 p. 92 Frère Branham dit, donc, du blanc de chaux sur l'extérieur Néhémie fait aucune différence. Ces religieux de l'époque, que Paul appelait les sépulcres blanchis, et ainsi de suite, ils semblaient simplement être des croyants à tout égard vus de l'extérieur, et ils avaient des prophéties parmi eux, et tout le reste mais l'intérieur de l'intérieur. L'âme qui Néhémie croit pas. C'est-à-dire pourquoi, je dis que les gens peuvent sauter de haut en bas, et parler en langue, les gens peuvent crier, imposer les mains aux malades, guérir les malades et ainsi de suite. Par la foi, toutes ces grandes choses qui sont écrites là par l'Esprit, et encore être perdus. Les oins. Par conséquent, le simple fait de regarder un seul symbole peut vous induire en erreur. Vous devez voir l'ensemble des symboles. Remarquez l'illustration que l'apôtre Jésus a donnée en disant que ces gens étaient des sépulcres blanchis, le blanc représentant le religieux, mais le sépulcre Esther un endroit qui renferme un mort. Matthieu 23.27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Donc, encore une fois, le blanc représente la justice, mais en combinant le blanc avec le sépulcre, cela vous montre qu'ils sont des farceurs. Au dehors, ils sont religieux et semblent être justes, mais au dedans, ils sont morts et pourris. Le quatrième saut 21 mars 1963 p. 80 remarqué, l'Antichrist était sur un cheval pâle, une couleur mélangée. Un cheval Esther, une bête qui représente une puissance. Sa puissance Esther toute mélangée. Pourquoi? Esther la politique, ce sont des puissances nationales, ce sont des pouvoirs religieux, ce sont des puissances démoniaques. Esther toutes sortes de puissances mélangées ensemble, c'était un cheval pâle mélangé. Il a toutes sortes de puissances. Mais quand Jésus vient, Esther sur un cheval de couleur unie, la parole. Amen. Celui-ci mélange ses couleurs de rouge, blanc, noir. Trois couleurs en une, représentées en une, et trois puissances représentées en une seule. Un cheval blanc, un cheval noir, un cheval rouge et trois couronnes en une. Vous voyez? Certainement. Mais la plupart des théologiens regardent le cheval blanc et puisque Jésus viendra sur un cheval blanc, ils supposent que c'est Esther lui. Mais parce qu'ils n'ont pas regardé le fait qu'il avait un arc et pas de flèche, qu'il était un faux Jésus. Alors cette personne vient monter sur un cheval blanc qui est à la place du Fils de Dieu, ce qui Esther vicare fili Dei, ce qui signifie par procuration ou indirectement le Fils de Dieu. Remarquez, dans la langue latine, il n'y a pas de U, alors le V prend sa place. Et par procuration signifie à la place de, ou dans la situation de ce qui en ferait l'Antichrist. Autrement dit, c'est Esther un faux Christ, sur un cheval blanc. Et ce nombre en sadisse n'en fait 666. Un nombre d'hommes, qui Esther le nombre de l'Antichrist. Oh là là! Les symboles sont tout, et ils sont cachés aux sages et aux intelligents et sont révélés aux enfants qui veulent apprendre. Et comme je l'ai dit, sans comprendre les symboles dans notre propre langue, nous Néhémie pouvons pas lire, et sans comprendre les symboles de la parole de Dieu, vous Néhémie pouvez pas comprendre la parole de Dieu. C'est-à-dire pourquoi Dieu a envoyé un prophète en cette dernière heure pour nous révéler le livre des symboles. Deuxième saut le 63-0319-43 Nous remarquons qu'à l'ouverture du premier saut, Satan avait un super-homme religieux. Avez-vous remarqué ce cavalier blanc? Que l'on pensait être l'église primitive qui s'avançait. Mais, oh, là là, Cela a été enseigné au fil des ans. Mais cela, Néhémie, pouvait pas être ainsi. Il suffit de regarder ce qu'il en est du reste, quand nous les relions tous ensemble, puis regarder ce qu'il en est. Voyez, maintenant, et je n'ai mis c'est pas encore ce qu'il en sera du reste, mais je sais que ça doit s'y ajuster parfaitement, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'était l'Église hiérarchique de Rome. Exactement. Si vous vous rappelez de l'interprétation de frère Branham du songe d'une sœur, question et réponse COD 23 août 1964 SP, 50290 questions, frère Branham. Que devons-nous faire? Quelque chose est revenu sur moi dont je n'arrive pas à me débarrasser. L'automne dernier, j'ai rêvé que j'étais perdu dans le sable blanc. Il commençait à faire sombre. Je n'arrivais pas à trouver mon chemin. Ce rêve est resté avec moi depuis l'automne dernier. Maintenant, je suis semblable à une personne tâtonnant dans les ténèbres. Mon fils Ervin et ma femme étaient inclus dans mon rêve. Maintenant, ils sont aussi dans l'obscurité. Nous sommes désespérés. Je crois que Dieu vous montrera ce qu'il y a dans nos cœurs maintenant. Mademoiselle. Oh. D'accord. Si nous nous trompons ou péchons, dites-le nous. Nous voulons être en ordre. Je n'ai aimé connaît pas la dame, mais j'ai juste l'impression que si vous êtes ici, madame, voilà votre problème. Vous avez laissé quelque chose vous arriver qui vous a rendu nerveuse, parce qu'être dans des sables blancs représente la pureté et la justice. Et vous laissez Satan vous faire croire ou accepter son mensonge. Votre rêve a prouvé qu'il n'y a rien de faux. Vous êtes seulement nerveuse, et en étant nerveuse et en pensant ainsi, vous rendez le reste de votre famille nerveux. Arrêtez de faire cela. Revendiquez vos droits donnés par Dieu. Votre rêve prouve par l'interprétation que vous êtes dans du sable blanc. Tout va bien. C'est vous-même qui êtes nerveuse. Et vous faites qu'un autre membre de la famille devient nerveux. Cela va à un membre suivant, et à un membre suivant. Et ce qui arrive, c'est que vous êtes tous agités et continuez ainsi. Et un membre de la famille Esther un peu contrarié par quelque chose, cela bouleverse l'autre, et l'autre, et l'autre, et la chose suivante, toute la famille Esther contrariée. Esther Satan. Ensuite, si un membre de la famille se réjouit, que le reste s'en réjouisse. Alors, chaque membre de la famille essaie d'agir de la sorte. Maintenant, revenons à Apocalypse 10 et reprenons au verset 5. L'ange que j'ai vu se tenant sur la mer et sur la terre, leva sa main vers le ciel, s'y séjura par celui qui vit au siècle des siècles, pour toujours et à jamais, qui créa le ciel, et les choses qui s'y trouvent, et la terre, et les choses qui s'y trouvent, et la mer, et les choses qui s'y trouvent, qu'il n'y aura plus de temps, et nous savons que le septième ange selon Apocalypse 10.7 devait révéler tous les mystères. Par conséquent, ce n'est pas parce que je n'ai pas les réponses à toutes ces questions, que les réponses Néhémie sont pas dans le message et Néhémie peuvent donc pas être répondues. C'est ce que dit Apocalypse 10.7, les mystères de Dieu seront terminés. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu se terminerait, s'accomplirait, comme il l'a énoncé à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, pour ce qui est des questions relatives à la Nouvelle Jérusalem, et peut-être millénium, nous n'en sommes pas encore là, nous devrons donc attendre que Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Et je suis satisfait d'attendre la bonne réponse de Dieu lui-même. Ainsi, quand j'ai vu ces questions, J'ai commencé à prier notre Père, et je lui ai demandé d'ouvrir mon esprit afin de voir plus clairement où nous en sommes, en sorte que nous puissions donner une réponse claire à ces questions. Car, après tout, s'il y a des questions dans les pensées des frères, il doit alors y avoir des réponses. S'il y a une profondeur qui appelle, il doit alors y avoir une profondeur pour y répondre. Dans son sermon, les expectatives ou la conduite de l'esprit 57-08-11p-28. Frère Branham dit, Dieu donne-nous des hommes de plus haut calibre avec ce genre de témoignage. Et quelque chose en lui, avait très envie et désirait ardemment l'heure où il verrait cela. Et cela serait rendu manifeste. Quelque chose en lui témoignait que c'était la vérité. Et je pense que nous pouvons nous identifier à ce qu'il a dit ici, que quelque chose au-dedans de nous veut en savoir plus sur le moment de la résurrection, et comme Dieu a révélé à Siméon qu'il verrait le Christ du Seigneur, alors il a fait des recherches sur le moment où cette promesse serait accomplie. Et tous, nous cherchons, nous aspirons et nous sondons dans les Écritures et le cri de Dieu, pour trouver les réponses à l'appel profond en nous. Frère Branham continue en disant, « Les hommes de Dieu et les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Comme David l'a dit une fois dans les psaumes, « La profondeur appelle la profondeur, au bruit de tes trompes d'eau. La profondeur appelle la profondeur, et il doit y avoir une profondeur pour répondre si une profondeur appelle. Et sinon, avant qu'il puisse y avoir une nageoire sur le dos d'un poisson, il doit d'abord y avoir de l'eau pour qu'il utilise cette nageoire, sinon il n'aurait pas de nageoire. Dieu Néhémie lui aurait pas donné une nageoire, s'il n'y avait pas d'eau, pour qu'il puisse l'utiliser. Avant qu'il y ait un arbre à cultiver sur la terre, il devait d'abord y avoir une terre, sinon il n'y aurait pas eu d'arbre. Et s'il y a une question dans le cœur des fils de Dieu, un appel profond, alors il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Une profondeur pour répondre à cet appel. Et le fait même que ces questions turlupinent la pensée des fils de Dieu, montre que nous sommes très proches que la profondeur y réponde. Dans sa prédication, l'expectative 01.10955p54 et nous sommes certainement dans l'expectative. Sinon nous n'aurions pas ces questions bouillonnant en nous. Ainsi, dans cette prédication, frère Branham dit, et ce soir, vous avez soif de la guérison divine, parce que la Bible de Dieu l'a dit. Quelque chose en vous vous dit qu'il y a une guérison divine. Et aussi sûr qu'il y a quelque chose en vous qui a soif de la guérison divine, il existe une fontaine ouverte quelque part. Et le même Saint-Esprit, qui a donné la promesse à Siméon et l'a conduit à Christ, vous a conduit ici ce soir, pour la guérison divine où la fontaine est ouverte pour chacun de vous. Quand la profondeur appelle la profondeur, il y a une réponse. Et quand vous verrez cela, oh, vous vous y baignerez. J'aime la beauté. Je regarde le coucher du soleil. Je chevauchais aujourd'hui autour de votre lac et je pleurais comme un bébé. La dame là-bas et son mari, le vendeur de mes livres ici, monsieur et madame Wood, ils ont dit, frère Branham, que voyez-vous? Ma mère Esther est une métisse, elle Esther à moitié indienne Cherokee. Et quand je regardais dehors là-bas et que je pouvais voir ses feuilles peintes, j'ai dit, c'est ce qu'a Dieu avec son pinceau. Il peint le paysage. Il y avait quelque chose en moi qui soupirait après cela. Et quand je l'ai vu, mon cœur pleurait au-dedans de moi. La profondeur appelle la profondeur. Oh, quel temps pour venir en sa présence où vous aspirez à être et avoir Jésus ressuscité vivant parmi nous. Alors cette profondeur qui appelle la profondeur, apporte les résultats. Et pas étonnant que les gens pleurent. Pas étonnant que les gens crient. pas étonnant que les gens deviennent émotifs. Pourquoi, frère? Tu n'es ému, peux pas t'en empêcher. Il y a quelque chose en vous qui s'émeut constamment. Quand j'ai prié, j'ai dit, Père, je n'ai aimé que n'ai pas les réponses à ces questions. Mais ton prophète a dit, tant qu'elles sont encore dans la parole écrite et qu'elles n'aient mis s'accomplissent pas, alors elles nous sont encore cachées. Et j'ai dit, mais Père, je sais que tu as envoyé un ange à frère Branham pour l'aider quand il était bloqué dans son bureau, alors qu'il étudiait ses sceaux, et qu'il nous a dit qu'il n'avançait pas dans son étude, et qu'il était sur le point de sortir et de dire ce qu'il avait entendu les autres dire dans le passé. Mais c'est alors que tu es intervenu par ton ange et que tu lui as tout ouvert. Et j'ai continué ma prière, et Père, je n'ai mis suis pas un prophète à qui vient la parole du Seigneur. Donc je n'ai mis m'attends pas à ce que tu m'envoies un ange pour me révéler ses réponses. Parce que je sais que tu l'as déjà fait. Tu nous as déjà envoyé ton septième ange. Par conséquent, les réponses doivent se trouver dans ce que tu nous as déjà dit, mais que nous n'avons simplement pas encore vu. Sinon, tu devrais l'envoyer à nouveau, parce qu'il n'aurait pas révélé tous les mystères selon Apocalypse 10.1-7. Mais Père, je sais que quand tu commenceras à accomplir ces événements, nous pourrons alors voir ce qui était écrit dans tes paroles. Et en le voyant s'accomplir, nous pourrons alors connaître la bonne interprétation, parce que tu interprètes ta parole en l'accomplissant. Puis soudain, ma pensée s'est allée dans Romains 1.24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? 25 Mais si nous espérons ce que nous n'y voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et j'espère que c'est là où nous en sommes en ce moment, alors que nous devons patiemment attendre que Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Mais tout en sachant que Dieu connaît nos cœurs, et qu'il nous a également promis qu'il nous aiderait dans notre faiblesse comme il l'a promis dans Romains 8. 26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous n'y savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27 Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, avec cette écriture à l'Esprit, et aussi mon écriture préférée qui dit, dans Philippiens 3.15 nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, vous révélera même cela. Alors, jetons un coup d'œil à ces questions l'une après l'autre avec nos pensées fixées sur Dieu et sur ses paroles. Je n'oublierai jamais quand, au Pérou, en 2002, on m'a posé une question dont je n'avais pas la réponse. C'était au sujet d'Ésaïe 9.6. J'ai lu la question d'un frère et il a posé une question au sujet d'Ésaïe 9.6. La question était de savoir pourquoi, si Jésus n'est pas Dieu, les Écritures disent-elles qu'il est le Dieu Tout-Puissant et le Père éternel? Et j'ai simplement prié silencieusement et j'ai dit, Père, tu dois me donner la réponse, parce que je n'ai mis, connais tout simplement pas la réponse. C'est ainsi que son esprit m'a répondu et m'a dit, lis simplement les Écritures mot après mot. Alors je me suis exécuté, et j'ai commencé à les lire mot après mot. 6 Car un enfant nous est né. Puis je l'ai vu, et j'ai dit, maintenant si cet enfant est né, alors il devait avoir un commence, comme l'a dit frère Branham. Et puis s'il est né, alors quelqu'un devait lui avoir donné naissance. Et si quelqu'un lui a donné naissance, alors cette personne était avant lui et lui a donné naissance. Et puis j'ai lu la deuxième pensée, dans ce verset des Écritures. Un fils nous est donné. Immédiatement la pensée m'est revenue, Et s'il a été donné, alors il espère un don. Et s'il a été donné, alors quelqu'un devait avoir donné ce don. Et puis le Père m'a envoyé sa parole dans Jean 3.16 car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait mis périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le voyez-vous? Un Fils nous est donné. Puis j'ai dit, continuons à lire une pensée à la fois. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Alors j'ai fait une pause et j'ai demandé au ministre, Esther ce qu'admirable Esther un nom? Ils ont répondu non. Puis j'ai continué et lu la pensée suivante et j'ai dit, on l'appellera conseiller. Et j'ai fait une pause et j'ai demandé à nouveau au ministre, Esther ce que conseiller Esther un nom? Et ils ont répondu, non. Puis j'ai lu la suite. On l'appellera Dieu puissant. Et j'ai encore fait une pause. Pour faire de l'effet. Et j'ai encore demandé au ministre, Esther ce que Dieu puissant Esther un nom? Et ils ont répondu, non. Puis j'ai continué à lire la pensée suivante et j'ai dit, Père éternel. Et j'ai encore fait une pause et j'ai demandé au ministre, Père éternel. Esther un nom? Et ils ont répondu, non. Et finalement, je leur ai demandé, Prince de la paix. Esther un nom? Et ils ont répondu, non. Puis le Saint-Esprit m'a dit de chercher ce que ce mot appelé signifiait. Et donc j'ai ouvert ma concordance et j'ai lu, et c'était le mot hébreu, karaé signifie, proclamer. Alors j'ai dit aux frères, mettons ce mot proclamer dans la phrase au lieu de appeler, et voyons la façon dont il s'intègre si parfaitement au bon enseignement de la divinité. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et son nom proclamera le merveilleux le conseiller, et son nom proclamera le Dieu puissant, et son nom proclamera le Père éternel, et son nom proclamera le Prince de la paix. Et c'est exactement ce que Jean nous dit dans le Nouveau Testament. Jean 1.18 Personne n'a jamais vu Dieu. À aucun moment, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a déclaré. Ce mot déclaré est tiré du mot grec exgenomé, qui signifie considérer ou déclarer à haute voix, ce qui signifie proclamer. Donc, question numéro 1. Pouvez-vous nous aider à comprendre davantage la pré-résurrection, la résurrection et la post-résurrection, par rapport au cri, à la voix et à la trompette? D'accord. D'abord, la pré-résurrection et la post-résurrection parlent d'un temps juste avant et d'un temps juste après le temps effectif de la résurrection elle-même. Et sachant que Dieu fait ces trois choses lors de sa descente du ciel, le cri, la voix et la trompette. Nous voyons qu'il y a quelque chose avant la voix, et quelque chose après la voix, puisque nous savons que la voix est la résurrection elle-même. 1 Thessaloniciens 4.13 Nous n'y voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous n'y vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. L'apôtre Paul nous dit que Dieu Néhémie veut pas que nous puissions ignorer les trois choses qu'il fait lors de sa parousia, lesquelles sont le cri, la voix et la trompette. 14. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16. Car le Seigneur lui-même, il n'y a qu'un seul Seigneur, et il dit que c'est ce seul Seigneur lui-même qui descendra du ciel avec le cri, la voix de l'archange, et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Maintenant, le prophète confirmé de Dieu nous a enseigné au sujet de la doctrine chrétienne de l'enlèvement. Il l'a dit dans son sermon intitulé l'enlèvement. L'enlèvement 12 avril 1965 p. 75 Trois choses se produisent. Un cri, une voix, une trompette, doivent se produire avant que Jésus n'apparaisse. Maintenant, un cri. Jésus fait tous les trois quand il descend. Un cri. Qu'est-ce qu'un cri? C'est le message qui Esther proclamait premièrement, le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. Maintenant, Dieu a une façon de faire les choses, et il n'aime et change jamais sa politique. Il n'aime et change jamais son. Il est le Dieu immuable. Dans Amos 3.7, il a dit qu'il n'aime et ferait rien sur la terre sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et aussi certain qu'il l'a promis, il le fera. Nous voyons donc que le cri Esther le message. Alors que se passe-t-il après le cri? L'enlèvement 4 décembre 1965-65-1204 p. 93. Par conséquent, le message appelle l'épouse ensemble. Voyez, le cri la trompette, le matin même avec une voix forte, il a crié ce cri, et la voix a réveillé Lazare. D'une voix forte, il cria, « Lazare, sors !» Voyez, et la voix réveille l'épouse endormie, les morts endormis. Et la trompette, avec le son de la trompette, et quand elle le fait, elle appelle. Une trompette appelle toujours Israël à la fête des trompettes, vous voyez? Laquelle était la fête de la Pentecôte? La grande fête dans le ciel et la fête des trompettes. Et maintenant, une trompette annonçait un appel à ceux, rassemblés, appelant à la fête. Et maintenant, c'est le souper des noces de l'agneau dans le ciel, maintenant, observez, le rassemblement dans l'épouse, la fête des trompettes, le souper des noces. Nous l'avons vu en type. Maintenant, observez juste un instant avant que nous clôturons. Maintenant, nous avons la réponse à notre question dans ces deux citations. Le cri Esther, le message qui précède la voix de la résurrection, et la trompette appelle à la foi, les saints vivants et les saints ressuscités à se rassembler pour l'enlèvement au souper des noces. Ainsi, le cri Esther, le temps de la pré-résurrection, et la trompette Esther, le rassemblement post-résurrection de tous ceux qui vont au souper des noces. Et la voix Esther, la saison de la résurrection elle-même. Chaque segment de sa parousia constitue une période de temps que Dieu a établie pour cette portion de la parole. Le cri Esther, bien sûr la période la plus longue car il a commencé en 1946 avec la publication du premier des sermons du message de F.R. Branham. La pleine période de la parousia Esther, une période bien plus longue, puisqu'elle traite de la présence de Dieu parmi les hommes, sans indiquer la façon dont elle commence. Il Esther ici, et à un moment donné, il se fait connaître qu'il Esther ici. Nous avons eu notre première apparition publique de la colonne de feu en 1933 au fleuve. Cependant, elle était là en privé au-dessus de l'enfant, quand il Esther né en 1909. Mais le mot parousia parle seulement de la présence sans indiquer quand elle commence ni quand elle se termine. Nous savons que Dieu fait trois choses majeures telles que mentionnées dans 1 Thessaloniciens 4.17 qui sont le cri, qui Esther le message, la voix, qui Esther la résurrection et la trompette, qui Esther le rassemblement pour sortir d'ici et aller au souper des noces. Toutes ces trois choses se déroulent pendant le temps de sa parousia. Mais ce n'est pas tout, car il y a 85 signes et événements associés à la période appelée la parousia de Christ. Et chaque événement majeur nous prépare au prochain événement. Le cri nous prépare à la voix, Et la voix nous prépare, change nos corps, pour le dernier événement, qui est Esther le trompette, laquelle nous rassemble pour le voyage au souper des noces. Question numéro 2. Que signifie réellement la voix de la résurrection? Est-ce le message de l'heure, le cri, ou est-ce dans le message de l'heure, que nous avons déjà reçu? Réponse numéro 2, c'est Esther la voix qui a ressuscité Lazare de la tombe. Et la voix de Dieu? C'est Esther la parole de Dieu. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Eh bien, quand cette vie viendra sur ceux qui sont dans la tombe, ils n'aiment ils peuvent s'empêcher de sortir de la tombe. L'enlèvement 4 décembre 1965 p. 88 La première chose Esther le son de la trompette. Ou plutôt la première chose Esther un cri. Puis une voix. Ensuite une trompette. Le cri. Un messager préparant les gens. La seconde Esther une voix de la résurrection. La même voix qui. Une voix forte dans Saint Jean 11.38 et 44. Qui appela Lazare à sortir de la tombe. Rassemblant l'épouse. Puis la résurrection des morts, vous voyez? Pour être enlevé avec eux. Maintenant, observez les trois choses s'accomplir. Jean 11.38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. 39 Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. 40 Jésus lui dit, Néhémie t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42 Pour moi, je savais que, tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est Esther toi qui m'as envoyé. 43 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. 44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, et laissez-le aller. Matthieu 27.45 Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 46 Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire, il appelle Eli. 48 Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. 49 Mais les autres disaient, laisse, voyons si Eli viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. 52 Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent un grand nombre de personnes. Remarquez que la voix Esther ce qui a causé la résurrection dans l'Alpha, par conséquent, cela doit également causer la résurrection dans l'oméga. L'enlèvement 4 décembre 1965 p. 89 Vous voyez, la première chose qui sort, c'est Esther son message appelant l'épouse à se rassembler. La chose suivante Esther la résurrection de l'épouse endormie, celle qui Esther morte dans les autres âges passés. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette, la fête dans les cieux, au ciel. Pourquoi? C'est Esther la chose qui se passe, les amis. Nous en sommes prêts maintenant. La seule chose, s'estère que l'église qui s'en doit s'exposer au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse batteuse viendra après un certain temps. Le blé sera brûlé, la paille, mais le grain sera rassemblé dans son grenier. Vous voyez? Question numéro 3, que voulez-vous dire par nous, passons du cri à la voix? Y a-t-il, dans le ministère Alpha, une écriture ou un modèle auquel vous pouvez vous référer? Réponse numéro 3, le modèle Esther de la saison dont Salomon a écrit dans Ecclésiaste 3.1 il y a un temps, une saison, pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, deux un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté, et sept arrache à Esther le temps de la moisson, le temps de la résurrection. Voilà votre modèle. Et tout a une saison pour s'accomplir. En ce moment, nous parcourons la saison du cri qui Esther le message, et la prochaine chose Esther la voie de la résurrection. Par conséquent, il doit également y avoir une saison pour cela. Ce sera une saison très courte en comparaison du printemps où on plante et de l'été où ce qui a été planté Esther exposé au soleil pour son mûrissement. Mais la saison de la moisson tombe entre fin septembre et début octobre, et avant novembre, habituellement, tout Esther complètement terminé. Question numéro 4, Jéhovah Jireh 24 février 56 p. 50 quand nous aurons dressé notre grande tente quelque part là. Nous prendrons beaucoup de temps pour revoir ces choses entre les lignes. D'observer comment la résurrection s'opère là-dedans. C'est Esther simplement magnifique. Les saints ont dormi ressusciteront-ils à ce moment-là dans la tente? Comme il a dit, d'observer comment la résurrection s'opère là-dedans. Réponse numéro 4, tout ce qu'il est Esther de l'automne, ou de la saison de la moisson, c'est Esther qu'il dure environ 6 mois. C'est Esther tout, puis vient l'hiver, et tout Esther alors à nouveau enseveli sous la neige. 6 semaines, c'est Esther ce que frère Branham dit chaque fois qu'il parlait de la tente. Je voudrais prendre environ 6 semaines et d'aller entre les lignes. C'est Esther environ 40 jours, à quelques jours près. Je voudrais lire un ensemble de citations tirées d'une douzaine de sermons où frère Branham parlait de dresser une tente pendant environ 6 semaines. Une vie cachée avec Christ 13 février 56 p. 11 et maintenant, dites donc, j'aimerais dresser cette tente quelque part ici, pour environ 6 semaines, la porte du cœur 16 mars 58 SP, 20 et j'espère qu'un jour, si le Seigneur le veut, et que ça vous plaise à tous, et si c'est la volonté du Seigneur, j'aimerais venir à un de ces endroits, par ici, dresser une tente et rester environ 6 semaines, ainsi, nous pourrions avoir des réunions de ministres et tout. Merci. Ce que sont les visions 21 avril 56 p. 11 et Esther la raison pour laquelle par une vision, le Seigneur m'a montré d'avoir cette grande tente et de rester 4 à 6 semaines par endroit. Une vie cachée avec Christ 13 février 56 p. 7 et ensuite, nous reviendrons pour commencer de la nouvelle, grande tente pouvant asseoir 16 000 personnes, les nouvelles caravanes et les choses sur lesquelles elle est terre, pour dresser notre tente afin d'y rester de 3 à 4, voire 6 semaines d'affilée, avant de déplacer la tente. Nous resterons simplement là jusqu'à ce que ce soit fini, jusqu'à ce que Dieu dise que c'est terre finie. La réconciliation par la communion avec Dieu 20 janvier 56 p. 4 Nous sommes en train d'acquérir une tente, une belle et grande tente qui peut contenir à peu près 12 000 personnes ou plus. Et nous comptons rester là pendant environ 4 à 6 semaines dans nos séries de réunions, et la prolonger un peu plus par rapport à ce que nous faisons jusqu'ici. C'est Esther pour cela que nous tenons nos réunions américaines. L'alliance de Dieu avec Abraham 28 avril 56 p. 17 à notre retour. Nous aimerions prendre des dispositions, si le Seigneur le veut, dans environ une année. Tout arrangé pour un bon réveil de 4 à 6 semaines sous une grande tente. Si le Seigneur le veut. La foi 27 avril 56 p. 3 Le Seigneur m'a donné une vision d'avoir une tente. Et mes services partout durent toujours environ 2. On. Peut-être, de 3 à 5 soirées. 10 soirées tout au plus. Je veux rester pendant 4. 5. 6 semaines. La profondeur appelant la profondeur 15 avril 56 p. 2 Nous aimerions apporter une grande tente et pouvant accueillir 15 000 personnes et la dresser ici dehors pendant environ 4 à 6 semaines afin que nous puissions enseigner. Ouvrir une voie 4 mars 56 p. 11 Écoutez. J'aimerais d'ici peu, si le Seigneur le veut, dresser cette tente ici même dans cette ville d'automne et rester là pendant 4 ou 6 semaines de réunion. Restez simplement là jusqu'à ce que la bataille soit terminée. Le témoignage 28 novembre 63 MP, 12 J'aimerais trouver un endroit de séjour, le Seigneur voulant, où une tente entrera en scène. J'aimerais trouver un endroit où je pourrais m'installer pendant environ 6 semaines, prendre simplement ces choses et les parcourir, vous voyez, d'un bout à l'autre, dans les Écritures. Écoutez le 25 janvier 57 p. 9 Le Seigneur voulant. Je souhaite avoir une très grande tente de séjour pour les Américains. Qu'on va installer dans une petite prairie pendant quelques semaines. 6 ou 8 semaines d'affilée. Pourquoi? 13 août 59 p. 4 Quand les gens sont rassemblés. Néhémie serait-ce pas merveilleux maintenant si nous Néhémie. Si nous avions environ 3 ou 4 semaines de ceci. Où nous pourrions tenir des après-midi des services d'instruction, prêcher sur la seconde venue, exposer les Écritures et en parler, et tenir une réunion de ministres chaque matin à 10 heures, où les ministres pourraient se rassembler dans la communion. Oh! Si Dieu le veut, je peux sentir la chose se préparer. Je vais me procurer une grande tente de séjour. Nous pourrons donc les dresser quelque part et rester 4 à 6 semaines au même endroit. Le berger de la bergerie 3 avril 56 p. 15 à 2 séjours. Je veux dresser cette tente que le Seigneur va me donner. Juste en dehors de ce côté de Chicago. Ici quelque part. Et avoir une série de réunions d'environ 6 ou de 8 semaines. Nous allons entrer directement dans la Bible et enseigner ces choses et laisser la guérison divine tranquille. Y aller juste une ou deux fois par semaine. Ou quelque chose de ce genre. Et enseigner simplement la Bible. Question numéro 5. Le faire ressortir de l'histoire 1er octobre 58 p. 5 Il y avait une petite construction. Une construction en bois à l'intérieur de cette tente. Et il y avait une femme se tenant là. Ou plutôt, un homme qui écrivait les noms. Et les gens entraient avec des béquilles, sur des civières, et sortaient de l'autre côté, en marchant. Eh bien, je me posais des questions sur tout ce qui s'était passé là à l'intérieur. Est-ce que les saints vivants recevront le changement de leur corps seulement à l'intérieur de la tente? Réponse numéro 5. Je crois que les saints vivants recevront le changement de leur corps dans cette petite pièce, en privé. Et rappelez-vous toujours et Néhémie l'oubliez jamais, Dieu fait toutes choses en utilisant un modèle. Personne n'était présent quand Dieu a soufflé en Adam le souffle de vie. Ainsi, quand nous recevrons le changement de nos corps, cela Néhémie sera pas un spectacle public. Jésus, lorsqu'il a ressuscité certaines personnes d'entre les morts, il n'en a pas fait un spectacle public. Il a fait sortir tout le monde. Luc 8.51 Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il n'ait permis à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Esther à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. 52 Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, Néhémie pleurait pas. Elle n'est pas morte. Mais elle dort. 53 Et il se moquait de lui. Sachant qu'elle était morte. 54 Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » 55 Et son esprit revint en elle. Et à l'instant il se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. 56 Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. 16 Comme lorsqu'Élie et Élisée ont tous les deux ramené un enfant à la vie. Ils ont fait sortir tout le monde de la pièce. Alors, il se peut que vous vous demandiez, pourquoi ? 16 Parce que quand ils ont mis les mains sur les mains du garçon et ont mis leur bouche sur la bouche du garçon, et ont soufflé le souffle de vie dans ce garçon, si les gens avaient assisté à cette scène, ils auraient pensé, comme Cester pervers de faire une telle chose, de placer ses lèvres sur les lèvres du garçon, et cette incrédulité aurait sur le champ mis fin au miracle. Élie 1 roi 17.17 Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il n'y resta plus en lui de respiration. 18 Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et pour faire mourir mon fils ?» 19 Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre où il demeurait, et le coucha sur son lit. 20 Puis il invoqua l'Éternel, et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce ce que tu affligerais, au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» 21 Il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » 22 L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. 23 Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils Esther vivant. » Élisée 2 rois 4.32 Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. 33 Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. 34 Il monta, et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. 35 Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. 36 Élisée appela Géasi, et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Maintenant, je me rends compte qu'il y a des exceptions, telles que la résurrection du fils de la veuve de Naïn qui fut guéri sur sa palette en route pour le cimetière, et telles que la résurrection de Lazare. Pour tous les deux, c'était fait publiquement, mais ces deux cas, c'était pour faire une déclaration publique de la présence de Dieu dans son fils. Mais n'oubliez jamais que quand Dieu a prononcé la parole pour ramener Abraham et Sarah au temps de la vie, c'était également devant une tente. Ainsi, l'importance de la tente et du changement du corps remonte dans le livre de la Genèse et redescend jusqu'en plein dans celui de l'Apocalypse. Genèse 18.9 Alors ils lui dirent, « Où est-ce Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » 10 L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, selon le temps de la vie, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. 11 Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah n'aimait, pouvait plus espérer avoir des enfants. Question numéro 6 Le 7e 124 mars 63 SP 98 et juste à ce moment-là, il m'a pris. Il m'a élevé. Et il m'a placé très haut. Quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une tente. Ou un genre de cathédrale. Et j'ai regardé. Et il y avait là comme une petite case. Une petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette lumière parlait à quelqu'un. Au-dessus de moi. Cette lumière que vous voyez là sur la photo. Avez-vous une idée de l'identité de cette personne au-dessus de frère Branham? À qui la lumière parlait? Réponse numéro 6, je crois que c'était l'ange du Seigneur. Rappelez-vous, la lumière n'était pas l'ange du Seigneur. Cette lumière était Christ Jésus. Christ. Mais l'ange du Seigneur est-il différent de la lumière ou de Christ? Les oins du temps de la fin 25 juillet 65 MP, 193 maintenant. Je veux que vous sachiez cela avec certitude. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherchais à dire ça de moi, vu que c'est à moi qui apporte ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix. Rien de plus. Et ma voix, même contre mon propre gré, je voulais être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c'est Esther la volonté de mon père. Je n'y suis pas celui qui Esther apparut là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui Esther apparut. Je n'y suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui Esther proche quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi, je savais. C'est-à-dire seulement ce à quoi je me suis abandonné, par qui il parle. Ce n'est-à-dire pas moi, ce n'était pas le septième ange. Oh non, c'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Son message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est-à-dire pas un homme, c'est-à-dire Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Christ. C'est-à-dire de lui que vous vous nourrissez. Vous n'aimez, vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps-parole infaillible du Fils de l'homme. Si vous n'aimez, vous n'êtes pas nourri pleinement de chaque parole. Afin de vous donner la force, pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et des choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment? Pendant que nous prions? Crois-tu cela? 6 septembre 53 p. 35. Or, quand des anges viennent, il est-il possible que l'ange puisse me visiter, vous visiter et ainsi de suite. Il peut y avoir des anges mineurs, mais quand vous entendez que cet ange Gabriel vient, faites attention, il se passe quelque chose. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus-Christ, et Gabriel annoncera la seconde venue de Jésus-Christ. Est-ce exact? Amen. Je commence déjà à me sentir religieux. Écoutez. Quand je pense à sa venue, Zacharie se tenait là. Il a regardé, et il était effrayé, et l'ange lui a parlé, disant, Zacharie. Ce qui allait arriver, et après les jours de ce service-ci, il allait rentrer chez lui, être avec son épouse qui allait concevoir et enfanter un fils. Maintenant, je désire que vous remarquiez ce prédicateur, c'est-à-dire comme certains prédicateurs d'aujourd'hui. Oh, a-t-il dit, comment cela pourrait-il se faire? Eh bien, mon épouse Esther trop vieille, quelque chose comme ça. Il a dit, je suis Gabriel qui se tient dans la présence de Dieu. Et parce que tu as douté de ma parole, tu seras muet jusqu'au jour de la naissance de l'enfant. C'est exact. L'ange Gabriel était un ange qui était chargé de donner des instructions et il est revenu avec des instructions pour déclarer la venue du fils aîné. Il est revenu à Marie, à Joseph et à Zacharie lors de la première venue pour s'assurer que les acteurs cruciaux de ce jour-là aient une bonne compréhension de leur rôle. Pourquoi Néhémie ferait-il pas la même chose à la seconde venue? Et il est revenu dans cette lumière, tout comme l'ange qui est rentré dans la lumière, que Billy Paul avait vu. L'ange Gabriel a instruit Marie, il a instruit Joseph, il a instruit Zacharie sur comment se préparer pour la venue du Fils. Et il y avait deux anges en compagnie de Dieu, quand il est revenu dire à Abraham et Sarah de se préparer pour la venue du Fils. Et l'ange Gabriel était également là pour instruire Daniel à propos de la venue du Messie, puis à propos du retour du Messie chez les Juifs à la 70e semaine. Et ce même Gabriel était l'un des deux anges qui ont accompagné Elohim à Sodome. Discerner le corps du Seigneur 12 août 59 p. 54 Cet ange de Dieu qui est revenu à Sodome, il est revenu, et il a promis. Souvenez-vous que ce même ange est revenu. N'importe qui sait que c'était Dieu. Ce n'était pas ce corps, parce que le corps était de la poussière. 91 Il n'y a pas longtemps, j'en parlais à quelqu'un, disant que c'était Dieu. J'ai dit. Il a dit, c'est un prédicateur. Il a dit, oh. Eh bien, frère Branham, vous Néhémie pensez pas que cet homme était Dieu? J'ai dit, il était Dieu. Abraham a dit qu'il était Dieu. Il l'a appelé Elohim. C'est le Dieu Tout-Puissant, lui et deux anges. Il a dit, eh bien, vous pensiez qu'il a vécu dans un corps? 92 J'ai dit, c'est si simple. Nous sommes composés de 16 éléments, le pétrole, la lumière cosmique, le calcium, la potasse, et ainsi de suite. Dieu a tout simplement rassemblé une petite poignée de cela, et il a fait, WHHH. Frère Branham fait une illustration en soufflant tirene.d.e. Il a dit, entre là-dedans, Gabriel. Il a soufflé, WHHH. Entre là-dedans, Michael. Et il en a soufflé une pour lui-même. Il a dit, j'ai appris que Sodome est presque mûr. Descendons-y et voyons. Descendons nous-mêmes. Abraham a prêché et les autres ont prêché. Allons voir par nous-mêmes. Il a également raconté cette même histoire plusieurs fois. Alors je n'ai mis, vais pas lire toute la citation afin de gagner du temps. Soyez certains de Dieu 8 juillet 59 SP, 56 il a dit, entre là-dedans. Gabriel. Nous descendons à Sodome. Frère Branham souffle de nouveau. Tirene.de, entre là-dedans. Michael. Et il en a soufflé un pour lui-même. Il est carrément descendu ici-bas dans la chair humaine. Néhémie me dit pas qu'il n'était pas Dieu. Abraham a dit qu'il était Elohim, le grand Dieu, Jéhovah. Il n'était pas une théophanie non plus. Ce n'était pas une vision. Il a vraiment mangé la viande de ce veau, il a bu le lait de la vache, et il a mangé du pain de maïs. Il était un homme. Monsieur, nous voudrions voir Jésus 24 juillet 62 p. 87 Dieu a juste tendu la main et a pris une poignée de ces éléments de la terre. Et il dit, PHFFF. Entre là-dedans, Gabriel. Nous allons à Sodome. Question numéro 7. La citation du septième sceau continue. Elle s'est éloignée de moi en tournoyant. Comme ça. Et elle est allée au-dessus de cette tente. Et il a dit, c'est là que je te rencontrerai. Et il a dit, ce sera le troisième pull. Et tu n'en parleras à personne. Alors, le troisième pull s'accomplira-t-il dans la tente? Autrement dit, pendant les réunions de résurrection? Réponse numéro 7. Absolument. C'est-ce ce qui cause le changement du corps? C'est-ce la parole parlée? Écoutez. Le troisième pull. C'est-ce la vie par la parole parlée? Vous envoyez le modèle dans les écureuils. Le poisson mort et les garçons d'Atirait auxquels la vie éternelle fut donnée. J'aurais souhaité avoir plus de temps pour en sonder la profondeur. Mais nous sommes à court de temps ce matin. Question numéro 8. Et, au Samino Canyon, il a dit, c'est le troisième pull. Et il y a trois grandes choses qui vont avec cela. L'une c'est déployée aujourd'hui. Ou, hier. L'autre c'est déployée aujourd'hui. Et il y a une chose que je n'ai mis peut pas interpréter. Parce que c'est dans une langue inconnue. Mais je me tenais bien là. Et je regardais la chose bien en face. Et c'est le troisième pull qui approche. Et le Saint-Esprit de Dieu. Oh, là là. C'est pourquoi le ciel tout entier était silencieux. Ah, que pouvez-vous dire d'il y a trois grandes choses qui vont avec cela? Que sont-elles? Ces trois grandes choses? Sont-elles inconnues jusqu'à ce jour? Astérisque la vie qu'elle soit créée, restaurée ou donnée, la vie créée des écureuils, la vie restaurée du petit poisson, la vie de nos deux garçons. Dans la tente, la vie restaurée, le changement du corps, et dans certains cas, la création de membres là où il n'y avait pas de membres, comme les deux filles qui ont reçu des globes oculaires, là où il n'y en avait pas, ou des tympans, là où il n'y en avait pas. B. Est-ce ce que cette déclaration, il y a trois grandes choses, qui vont avec cela, a un lien avec ce qu'il dit dans le 7e Sodim 24 mars 63 SP, 129. Et, vous voyez, tout ce qui est souillé de quelque façon que ce soit, doit être purifié pendant le 6e saut. Bon. Maintenant, est-ce ce que vous remarquez? À l'ouverture de ce 7e saut, il y a aussi un triple mystère. Le triple mystère, ce sont ces choses qui sont gardées secrètes. C'est-ce ce qu'est un mystère? Quelque chose de secret. Ces trois mystères sont 1. Ce que cela sera. 2. Quand cela sera et 3. Comment cela sera. Maintenant, ces trois choses sont toujours un mystère, parce qu'elles ne peuvent pas être révélées jusqu'à ce que Dieu les accomplisse. Dieu révèle sa parole en la faisant s'accomplir. Ainsi, jusqu'à ce que Dieu fasse s'accomplir ces trois choses, elles seront toujours un mystère pour nous. 1. L'heure de cette venue. 2. La méthode par laquelle Dieu nous déclare cette venue. Et 3. La venue elle-même. Et n'oubliez jamais qu'il y a une différence entre l'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur. Ils sont deux mots différents et ils signifient également deux choses différentes. Souvenez-vous toujours d'ôter vos yeux du vase et de les fixer sur le Dieu qui utilise le vase. Il y a une différence entre l'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur comme frère Branham nous l'a si bien enseigné. Dès ce moment 13 juillet 62 p. 102 combien savent qu'il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, c'est l'apparition? La venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans son Église les œuvres qu'il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette Église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette Église. Eh bien, je n'y suis pas un prédicateur. Vous savez que je n'y le suis pas. Je n'ai pas d'instruction pour l'être. Parfois, j'hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous Néhémie sont pas apôtres. Tous Néhémie sont pas prophètes. Tous Néhémie sont pas docteurs. Tous Néhémie sont pas évangélistes. Je me tiens ici. Même mon ministère est différent de celui d'un pasteur ou d'un docteur. Je suis. Je n'ai aimé le suis pas. Et si je dis mal à qui les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère, voyez, c'est Esther de le déclarer, qu'il est ici. Alors, c'était qui? Avec le cri de minuit dans Matthieu 25 qui cria, voici, l'époux. Allez à sa rencontre. C'était le septième ange d'Apocalypse 21.9 qui a dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est Esther moi. N'ayez pas peur 11 juin 62 p. 81 vous savez, il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ. Ce sont des mots tout à fait différents. Il apparaît maintenant dans son église. Nous le voyons. Nous savons que c'est Esther lui. C'est Esther le Saint-Esprit. Voyez, nous savons que c'est Esther ainsi. Jéhovah Jireh de 6 juillet 62 p. 74 Esther la fin de l'attente de la semence royale. Il est Esther ici. C'est Esther l'apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de faire la différence? Il y a un passage dans la Bible. Vous savez, je n'ai pas le temps d'entrer dans cela. Où il est Esther parlait de l'apparition de Christ. Et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses tout à fait différentes, l'apparition et la venue. Il apparaît maintenant, œuvrant parmi nous sous la forme du Saint-Esprit, pour parfaire l'Église. Elle doit l'être. La persévérance 8 juin 62 p. 95 Saviez-vous que la Bible parle de l'apparition du Seigneur, et aussi de la venue du Seigneur, et que ce sont deux œuvres différentes? Sondez cela et voyez si cela est vrai. Jéhovah Jireh de 6 juillet 62 p. 74. Il y a un passage dans la Bible. Vous savez, je n'ai pas le temps d'aborder cela. Où il est parlé de l'apparition de Christ. Et ensuite de la venue de Christ. Caché aux sages et aux intelligents. Mais révélé aux enfants et à ceux qui, comme eux, apprendront. Maintenant, revenons au triple mystère de notre question. Il y a également un autre triple mystère dont nous parle William Branham. Et c'est le triple mystère de Christ. Et n'oubliez jamais que le mot Christ peut être utilisé comme l'onction, et également comme le processus d'être oint. Et enfin, celui qui fait cette action d'oindre, qui est celui qui oint lui-même. C'est Esther pourquoi frère Branham parle du triple mystère de Christ comme Christ avec vous, Christ en vous, et Christ à travers vous. Nous voyons dans Colossiens 3.4 qu'en Christ, en parlant de celui qui oint, qui Esther notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Jean 3.1-3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde n'a aimé nous connaît pas, c'est Esther qu'il n'a aimé l'a pas connu. De bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est Esther. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même Esther pur. Christ Esther le mystère de Dieu révélé 28 juillet 63 p. 274 Donc, nous voyons que le souper des noces Esther proche. Maintenant, si je n'ai aimé vous revois plus jamais, souvenez-vous, le souper des noces Esther proche. Et alors, le royaume, selon la promesse, Esther sur le point d'être introduit, le grand millénium, l'enlèvement de l'Église, et la destruction des méchants. Et le monde, sous le sixième sceau, Esther sur le point d'être purifié par les volcans. en vue d'enlever toute la corruption et le péché du monde, pour le façonner à nouveau et apporter un nouveau et radieux millénium pour l'âge qui vient. Lorsque nous voyons toute cette glorieuse triple révélation, Dieu en Christ, Christ dans l'Église, le royaume qui vient, Adam et Ève ramenés au jardin d'Éden, représentés par Christ et son épouse, et ensuite le royaume qui va être restauré selon sa promesse. Gloire à Dieu. Maintenant, par la révélation du triple mystère, le secret, et par sa parole confirmée par son autorité originelle. Christ Esther, le mystère de Dieu révélé 28 juillet 63 p. 199 O. Lala. Il y en a tant d'ici, nous pourrions simplement continuer. Remarquez, l'arbre du corps de Christ dans le jardin, faisant maintenant, faisant connaître son mystère à cet arbre épouse. Observez. Racheté par Christ, le second Adam. Croyez-vous qu'il l'était? L'assemblée dit, Amen. Tirène D.E., rentrant en Éden avec son épouse déchue ramenée à nouveau. C'est Esther Christ et l'Église aujourd'hui, il ramène son épouse. Voyez-vous le triple mystère maintenant? Amen. Dieu manifesté en Christ. Christ manifesté dans l'Église. Tous ensemble, pour amener l'Adam et l'Ève originelle, l'homme et la femme, qui sont un, tirés du même sang et du même esprit, et tout. Un super signe de 24 juin 62 p. 24 Je prie pour ses ministres, leurs églises et leurs congrégations. Ô Dieu, que leurs petites églises croissent jusqu'à s'étendre, que de leurs églises sortent de puissants évangélistes et de puissants missionnaires qui iront dans le monde entier. Que nous soyons à l'œuvre, Seigneur, car nous savons que nous n'avons plus beaucoup de temps pour travailler. Nous voyons le temps se rapprocher. Nous nous attendons bientôt à l'ange qui posera son pied sur la terre et sur la mer, et qui lèvera la main et jurera par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aura plus de temps. Il Esther dit qu'à ce moment-là le mystère de Dieu devra être terminé. Nous comprendrons à ce moment-là, Père, que le triple mystère de Dieu nous a été révélé. Et nous comprendrons, et nous chercherons à ce moment-là ces mystérieux tonnerres qui sont venus du ciel, dans le livre de l'Apocalypse, qui est scellé au dos du livre. Christ Esther, le mystère de Dieu révélé 28 juillet 63 p. 247 Le royaume de Dieu Esther en vous. Dit la Bible Jésus. Le royaume. Nous n'émis sommes pas une dénomination. Nous appartenons à un royaume. Et le royaume, c'est Esther, la parole de Dieu rendue esprit et vie dans notre vie, faisant s'accomplir chaque promesse en ce jour, comme ça s'était fait, en ce jour où la parole est Dieu est éteint. Et la parole est Dieu Esther dans son Église aujourd'hui, faisant de cela l'autorité du corps qui Esther racheté afin d'apporter le message dans le dernier jour et de ressusciter des morts lors de la résurrection, afin de retourner et d'être à nouveau restauré, comme Adam et Ève, au commencement, dans le jardin d'Éden. Le triple mystère de Dieu, son corps. Oh là. Maintenant, frère Branham nous dit que les sept tonnerres sont l'ouverture des sceaux et que lors de l'ouverture de chaque sceau un tonnerre s'Esther fait entendre. Question et réponse COD 30 août 64 SP 49395. Les sept tonnerres, qui sont les sept mystères, ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux? Mais Néhémie sont pas encore connus de nous comme étant les tonnerres? Non. Ils ont été révélés dans les sept sceaux. C'est Esther à cela que les tonnerres se rapportaient. Ils devaient révéler les sept tonnerres qui firent entendre leur voix. Et personne n'arrivait à comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était, mais on lui a interdit de l'écrire. Il dit, mais le septième ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les sept mystères des sept tonnerres seraient révélés. Et le septième ange Esther le messager du septième âge de l'Église. Voyez-vous? Le dévoilement de Dieu 14 juin 64 MP, 137. Or, quelqu'un. Bien des gens m'ont dit, et des théologiens m'ont dit, frère Branham, si le Seigneur Dieu. Ils ont dit, si. Avec l'expérience que le Seigneur vous a donnée pour son peuple. Je dis cela humblement. Ils ont dit, vous auriez vous-même le droit d'écrire une Bible. Votre parole que Dieu a manifestée. J'ai dit, si Esther peut être vraie. Voyez-vous. Il essayait de me prendre au piège. Voyez. Et j'ai dit, mais. Vous voyez. Je n'ai pourrais pas faire ça. Il a dit, pourquoi pas. Vous remplissez toutes les conditions. J'ai dit, mais regardez bien. On n'aimait peut ni ajouter, ni retrancher une seule parole. Voyez. Et il a dit, eh bien. Alors. C'est cet tonnerre. Vous voyez. Il a dit, c'est cet tonnerre qui retentissent. Néhémie seront-ils pas une révélation qui doit être donnée à un homme? J'ai dit, non. Monsieur. Ce serait d'y ajouter quelque chose ou d'y retrancher quelque chose. Tout Esther révélé là-dedans. Et les sept sceaux ont ouvert la révélation de ce que c'était. Vous voyez? Il Esther toujours dans la parole. Vous voyez? On Néhémie peut pas sortir de cette parole. Elle Néhémie se départira pas de la parole. Et l'Esprit de Dieu Néhémie se départira jamais de cette parole. Il s'en tiendra strictement à la parole. Aveuglant les uns. Et ouvrant les yeux des autres. Il fera toujours cela. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle. Mai 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.